Bienvenue sur BetaFinch, votre analyse des résultats financiers générés par intelligence artificielle. Je suis Alex, et je suis rejoint aujourd'hui par Jordan pour décortiquer les résultats du premier trimestre 2026 de Merck. Jordan, merci d'être là.
Ravi d'être ici, Alex. Merck a eu pas mal de choses à partager ce trimestre.
Absolument. Avant de commencer, j'ai un message important pour nos auditeurs. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.
C'est un excellent rappel. Alors, commençons par les chiffres principaux.
Oui, parlons des résultats financiers. Merck a rapporté un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui représente une croissance de 5% en glissement annuel. Cependant, en excluant l'impact des changes, la croissance s'établissait à 3%. Il y a aussi quelque chose d'important à noter concernant le résultat net.
Ah oui, la charge Sidara. Caroline Litchfield, la directrice financière, a mentionné une charge unique de 9 milliards de dollars liée à l'acquisition de Sidara Thérapeutique. C'est pourquoi Merck a rapporté une perte de 1,28 $ par action ce trimestre.
Exactement. Donc, sur le plan GAAP, c'est une perte, mais en termes ajustés et de ce que les investisseurs regardent vraiment, les choses sont bien plus positives. Et c'est un point crucial pour comprendre ce qui se passe réellement chez Merck.
Parlons justement de ce qui se passe réellement. Merck a augmenté ses orientations pour 2026, à la fois pour le chiffre d'affaires et pour le bénéfice par action ajusté. C'est un signal positif.
Tout à fait. L'orientation révisée prévoit un chiffre d'affaires entre 65,8 et 67 milliards de dollars, soit une croissance de 1 à 3%. Et pour le bénéfice par action ajusté, ils s'attendent à 5,04 à 5,16 dollars. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'échange offre un léger avantage de environ 1 point de pourcentage pour le chiffre d'affaires et 0,10 dollars pour le bénéfice par action.
Maintenant, parlons de ce qui stimule vraiment cette croissance. Oncologie et santé animale sont les vedettes du spectacle.
La famille de produits Keytruda a augmenté de 8% pour atteindre 8 milliards de dollars. C'est remarquable. Keytruda a maintenant 44 approbations réglementaires à travers 19 types de tumeurs différentes, plus 2 approbations agnostiques à la tumeur.
Et il continue à en ajouter. Dean Lee a mentionné que le mois dernier, la FDA et la Commission européenne ont approuvé Keytruda en combinaison avec d'autres thérapies pour le cancer de l'ovaire platinum résistant. C'est la première approbation basée sur PD-1 à montrer une amélioration de la survie globale pour ces patientes.
Exactement. Et puis il y a Welireg, qui a augmenté de 43% à 199 millions de dollars. C'est une croissance vraiment impressionnante grâce au lancement continu dans les marchés internationaux et à l'utilisation accrue pour le cancer du rein avancé déjà traité.
Mais attention, il y a aussi des défis. Gardasil a chuté de 22% en raison d'une demande plus faible en Chine et au Japon. Rob Davis et l'équipe s'y attendaient, mais c'est toujours un bon rappel que tous les produits ne connaissent pas une croissance régulière.
C'est un point important. La santé animale, cependant, a augmenté de 6%. Rob a mentionné qu'ils ont lancé Numelvi, le premier et unique inhibiteur JAK de deuxième génération pour la dermatite allergique chez les chiens. C'est une niche différente de la pharma classique, mais elle soutient la diversification du portefeuille.
Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce ou, plutôt, du bestiaire dans la pièce. Merck a annoncé son intention d'acquérir Tern Pharmaceuticals. Quel est le potentiel d'un candidat appelé Tern 701?
Selon Dean Lee, Tern 701 est un inhibiteur oral allostérique du gène BCR, ABL, conçu pour les patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Voici le message clé, Dean a déclaré que cela a le potentiel d'être un traitement de meilleure classe, et Rob a utilisé le terme « potentiel commercial de plusieurs milliards de dollars ». C'est un achat important de Merck.
Et cela s'inscrit dans une stratégie plus large que Rob a appelée la « stratégie de développement commercial axée sur la science ». L'idée est que Merck regarde où il existe des besoins médicaux non satisfaits importants avec une science convaincante, puis se déplace.
Oui, et Rob a mentionné lors d'une question qu'il recherche des transactions dans une fourchette de 1 à 15 milliards de dollars généralement, bien qu'ils aient la capacité d'aller au-delà pour l'accord stratégique idéal. L'oncologie, l'immunologie et la cardiométabolique sont les domaines thérapeutiques les plus susceptibles d'être des cibles, mais Rob a aussi dit qu'ils étaient ouverts à des opportunités en dehors de ces domaines.
Parlons maintenant de l'intelligence artificielle, car c'est un thème récurrent. Merck a annoncé un partenariat pluriannuel avec Google Cloud pour l'intelligence artificielle avancée. Ils ont également étendu leur collaboration avec Tempus AI et signé un accord avec la Mayo Clinic.
C'est une approche multifacette de l'IA. La FDA a même déclaré lors d'une question qu'ils considéraient l'IA comme un élément clé de leur productivité et de l'accélération du pipeline. Ce ne sont pas seulement des mots à la mode, ils construisent réellement une infrastructure pour utiliser l'IA pour améliorer la découverte de médicaments.
Maintenant, parlons du pipeline, car c'est où Merck estime vraiment que se trouve sa valeur à long terme. Rob a mentionné plus de 20 lancements de produits actifs qui pourraient être des moteurs de croissance significatifs au cours de la prochaine décennie. Il vise un potentiel commercial de plus de 70 milliards de dollars d'ici le milieu des années 2030 à partir de ces nouveaux moteurs de croissance seuls.
C'est un chiffre impressionnant. Mais jetons un regard réaliste sur ce que cela signifie. Ils ont aussi restructuré leur organisation commerciale. Rob a présenté une nouvelle structure d'unité commerciale axée sur les produits et les domaines thérapeutiques. De nouveaux dirigeants, comme Brian Ford et Yannius Ozan, guident ces unités.
C'est une partie intéressante. Parfois, les réorganisations peuvent être des drapeaux rouges pour les investisseurs, mais dans ce cas, Rob les a présentés comme nécessaires pour tenir le rythme de l'accélération du pipeline et de la transformation du portefeuille. C'est une lecture haussière si vous croyez qu'ils exécutent réellement.
Absolument. Maintenant, il y a aussi eu quelques moments intéressants au cours des questions-réponses. Par exemple, on a demandé à Dean Lee à propos du MK-3000, qui est un premier candidat potentiel dans la classe ciblant la voie WNT pour les maladies rétiniennes.
Oui, et la question était essentiellement, combien de fois par semaine devrez-vous l'injecter pour que cela fonctionne réellement? C'est une question légitime car le calendrier de dosage affecte grandement l'attrait commercial d'une thérapie.
Dean a dit que les essais commenceraient généralement par un dosage toutes les 4 semaines, mais qu'ils exploreraient d'autres fréquences. Il a souligné que le focus initial était sur 4 semaines pour obtenir cela dans l'étiquetage.
Voyez, c'est l'art et la science de développer un médicament. Vous voulez montrer une efficacité à des intervalles de dosage pratiques, mais vous ne pouvez pas concevoir le procès exactement comme vous le souhaitez. Vous devez rester transparent avec la FDA.
Exact. Il y a aussi eu une question sur WelliReg, où le LightSpark 012 ne s'est pas déroulé comme prévu. Mais Dean a indiqué qu'il restait très optimiste à propos d'autres essais LightSpark, comme LightSpark 022 et LightSpark 011.
C'est un moment instructif. Dans un large portefeuille, tous les essais ne réussissent pas exactement comme prévu. Mais ce qui compte, c'est comment les dirigeants gèrent les déceptions et naviguent vers le succès ailleurs. Dean semblait confiant que ces autres données allaient bien se dérouler.
Et puis il y a le travail novateur en immunologie avec tulisokibart, un inhibiteur de TL1A. Des données sont attendues cette année pour la colite ulcéreuse et la maladie pulmonaire interstitielle systémique associée à la sclérose systémique.
Le TL1A est intéressant car Dean a décrit TL1A comme un nœud important dans le paysage immunologique, similaire à TNF et IL-23. L'implication est que si vous pouvez frapper ce nœud, vous pourriez traiter plusieurs conditions. Et Dean a soulevé la possibilité d'association thérapeutique, ce qui est un thème montant dans l'immunologie.
Oui, il y a aussi un produit VIH appelé IDVINSO qui a récemment été approuvé par la FDA. C'est un régime une fois par jour de 2 médicaments sans inhibiteur d'intégrase, ce qui le rend différent de ce qui est actuellement disponible.
Et Dean a décrit islatravir, le composant clé, comme un inhibiteur de la transcriptase inverse nucléosidique de nouvelle génération qui bloque la translocation. Il y a aussi du travail sur des régimes hebdomadaires avec d'autres partenaires comme Gilead.
Donc, mettant tout cela ensemble, voici ce que je pense être les 3 points clés pour les investisseurs. Premièrement, Merck augmente ses orientations pour 2026 malgré les vents contraires d'échange, ce qui suggère une confiance fondamentale dans son activité.
Deuxièmement, leur portefeuille en oncologie continue d'être un moteur solide, avec Keytruda générant 8 milliards de dollars en un seul trimestre et de nombreuses approbations réglementaires en cours d'exécution.
Et troisièmement, la transformation du portefeuille est en cours avec plus de 20 lancements de produits et une forte dépendance à la science et à la technologie, y compris les partenariats d'IA, pour accélérer la découverte et la commercialisation.
C'est un profil de croissance solide, mais comme toujours, il y a des risques. Les mises en œuvre réussies dépendent du succès des essais cliniques, de la capacité à naviguer dans le paysage réglementaire et de la capacité à intégrer les acquisitions. Ce ne sont pas de petits défis.
Exactement. Et il y a aussi la question de la concurrence. D'autres entreprises pharmaceutiques de grande taille travaillent sur des domaines thérapeutiques similaires et ont leur propre pipeline robuste.
Mais en revenant à ce que nous avons entendu sur cet appel de résultats, Merck semble positionné pour une décennie de croissance significative. Qu'il réalise vraiment ce potentiel de 70 milliards de dollars, c'est une autre question, mais les fondamentaux semblent solides pour l'instant.
Merci Jordan. Avant de conclure, j'aimerais rappeler à tous nos auditeurs quelque chose d'important.
Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable avant de prendre toute décision d'investissement.
Exactement. Pour plus d'analyses sur les résultats de Merck et d'autres sociétés, rendez-vous sur notre site web. Je suis Alex, et ceci a été Beta Finch, votre analyse des résultats générés par intelligence artificielle.
À bientôt.
C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir Beta Finch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.